Content d'être revenu. Aujourd'hui, nous allons Be'ezrat Hashem parler de Pourim et plus précisément de la Megillat Esther. Pour essayer de comprendre le sujet de Pourim, comme tous les sujets, il faut savoir une règle. Et la règle nous dit que chaque fois qu'une fête arrive dans le judaïsme, elle ne vient pas seule. La fête vient accompagnée de son antithèse. Ça veut dire que si par exemple j'ai la fête de Hanouka, Hanouka va venir avec une antithèse de Hanouka. Hanouka, c'est d'apporter la lumière au monde, va venir son antithèse, c'est-à-dire la Grèce, qui va venir assombrir le monde avec des idées qui sont complètement différentes de ce que la Torah indique. Quand je rentre à Pessah, avant de fêter la fête de Pessah, j'ai l'antithèse de la fête de Pessah qui est en réalité la notion Égypte. Et donc si je ne sais pas sortir de cette notion Égypte, je ne peux pas fêter mon Pessah comme il se doit. Concernant Pourim, il en est de même. Si je ne comprends pas l'antithèse de Pourim, je ne peux pas rentrer dans Pourim et comprendre le secret de Pourim. Quelle est l'antithèse de Pourim? Amalek. Amalek, c'est l'anti-Pourim. C'est exactement l'inverse de la force que Pourim doit nous apporter. Ça veut dire qu'il y a un combat durant Pourim entre les forces que Mordechai et Esther doivent apporter au monde et les forces que Haman, Achashverosh et toute la clique veulent apporter au monde, c'est-à-dire éteindre ou changer ou transformer cette force. Est-ce que vous comprenez? Ceci vient parce qu'il y a une raison bien précise, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec chaque chose son antithèse. Comme dit Kohelet, le roi Salomon, dans son livre Kohelet, « Gam » lorsque Akadosh Baruch Hu fait quelque chose, il fait une force qui contredit cette chose-là pour justement, entre la thèse et l'antithèse, sorte la synthèse. Donc à chaque fois qu'il y a une force, il y a contre elle, face à elle, une force contradictoire qui va venir en fait essayer d'éteindre cette force. Et nous, nous devons, entre ces deux degrés, voir comment on avance dans notre processus de délivrance totale. Une fois cette chose-là comprise, on comprend pourquoi on ne peut pas rentrer à la fête de Pourim sans lire d'abord le Shabbat qui précède Pourim, la partie qui concerne Amalek, qu'on appelle Parashat Zachor. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech Betzetchem Mimitzrayim Asher Karcha Baderech Vayezanev Becha Et Kol Hanecheshalim Acharecha Veata Ayef Veyagea Velo Yare Elohim, et ainsi de suite. Traduction: souviens-toi activement de ce que t'as fait à Amalek sur le chemin de ta sortie d'Égypte. Donc nous comprenons en réalité que Amalek agit lorsque je suis en route pour m'échapper de mon exil. Donc je suis en train d'étudier mon ennemi avant de rentrer à la fête de Pourim. Shabbat qui vient, on va sortir deux livres. Dans le premier, nous allons lire la paracha de la semaine, Tetzaveh. Et à la place du Maftir, nous allons lire la paracha, donc le passage qui concerne Amalek. Et à la fin, on clôture l'otishkar, tu n'oublieras pas. Donc en réalité, on comprend bien que si je suis en train d'étudier mon ennemi avant de pénétrer dans la fête, j'ai une chance de gagner cette fête. Mais si je rentre à Pourim en croyant que Pourim c'est des déguisements et des danses et des chants et boire du vin, bien, j'ai perdu le sens profond de Pourim, même si je fais la fête. Et donc nous sommes dans une yeshiva, nous devons un petit peu augmenter notre niveau d'étude et comprendre que Pourim n'est pas une fête pour des enfants. C'est vrai que les enfants aiment cette fête parce qu'il y a tout un folklore théâtral, mais en réalité, il s'agit d'une fête très sérieuse, à tel point que si on ne combat pas Amalek, on risque de tomber dans son piège. Et quel est le piège de Amalek? Le texte le dit. Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betzetrem mitzraim. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait lorsque tu es sorti en chemin de la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux sortir d'un exil, Amalek apparaît sur mon chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Asher karcha baderech. Traduction, il t'a refroidi en route. Il t'a refroidi sur la route de ta décision. Tu es en train d'être sur le point de prendre une décision très importante pour ta vie. Est-ce que je fais mon alia? Ou est-ce que je reste encore en dehors de la terre d'Israël? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est quand on est sorti d'Égypte qu'il a attaqué. Ça veut dire qu'à chaque fois que chacun de nous prend la décision de venir en Eretz Israël pour sentir un petit peu l'ambiance, sachez qu'en route, nous allons être attaqués par une force qui s'appelle Amalek, dont les sages nous donnent une petite allusion. Amalek a pour valeur numérique, les lettres de Amalek ont la même valeur numérique que le mot Safek, c'est-à-dire le doute. Donc si tu prends la gématria du mot Amalek, ça fait Aïn même, Aïn c'est 70, même c'est 40, ça fait 110, Lamed c'est 30, 140, et Kouf c'est 100, 240. Safek, le doute, Samer c'est 60, P c'est 80, et Kouf 100, 240. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amalek égale Safek. Amalek n'est pas seulement un peuple qui est dangereux pour Israël, certes c'est vrai, et il apparaît à chaque fois qu'on va essayer de sortir de notre exil pour revenir sur notre terre. Ça s'est passé à toutes les périodes. À chaque fois qu'on est sorti d'un exil pour rentrer sur la terre d'Israël, il y a eu un Amalek qui change à chaque époque, vous le comprenez bien. Il s'habille selon les vêtements de l'époque dans laquelle il est. Alors, un jour il s'appellera Hitler, quand on est sur le point de revenir en Eretz Israël. Un jour il s'appellera Aman, dans notre histoire de Pourim. Et un jour il s'appellera Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et à chaque fois qu'on est en train d'aboutir à notre direction d'histoire réelle, vient cette force pour bloquer, pour essayer de bloquer. Alors la meilleure manière de bloquer quelqu'un, c'est le doute, en attaquant sa certitude. C'est-à-dire, quand tu n'es plus certain de ce que tu fais dans ta vie, eh bien tu tombes dans ce piège qui s'appelle Amalek. Donc, Shebalaluk et damam chez Israël kakelev. Amalek, regardez le mot Amalek, il y a le mot Am, c'est-à-dire c'est une force qui vient contre le peuple, pas contre l'individu. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous faites votre alia, moralité, vous comprenez bien que quand vous faites votre alia, ce n'est pas un acte individuel, c'est un acte collectif. C'est-à-dire que vous êtes en train de rejoindre le peuple d'Israël qui est sur sa terre. Donc, Am, et il reste le mot Lek, Lak. Les Chachamim nous disent, ce mot Lak vient du mot Léché. Et donc, Amalek, nous disent les Chachamim dans la Gemara, c'est celui qui lèche le sang d'Israël comme un chien. Autrement dit, c'est celui qui se réjouit lorsqu'Israël tombe, faillit à sa mission, ne réussit pas à avancer dans son histoire telle qu'il doit le faire. Moralité, nous devons lire ce Shabbat qui précède Pourim, je répète et je conclue, l'histoire de ce Amalek. Et si tu as compris ce degré de Amalek, alors tu peux rentrer à Pourim. Si tu n'as pas compris ce degré de Amalek, Pourim reste encore une fois une fête joyeuse, très sympathique, mais je ne sais pas trop ce que je fais là-bas. Donc l'étude est très importante. non seulement l'étude de la fête, mais l'étude du récit de cette fête, parce que dans le récit de la fête se cache toute l'énergie de cette fête-là. Je veux parler donc clairement de la Megillat Esther. Donc dans la Megillat Esther, il y a un grand secret. Il y a deux grands secrets, pas deux, beaucoup, de grands secrets. Et je dois pénétrer à l'intérieur de cette Megillah pour utiliser les mots Megillah, c'est-à-dire dévoiler. Megillah, Esther. Esther veut dire caché, donc dévoiler ce qui est caché. Donc se cache beaucoup de choses dans la Megillat Esther. Et mon rôle, votre rôle, notre rôle, c'est de décoder le code Megillat Esther. Megillat Esther est un code. Est un grand code cosmique. Si je le comprends, je peux en réalité utiliser ce code dans beaucoup de domaines dans ma vie. Pas seulement le jour de Pourri. Ken.
Vous avez dit au début, chaque chose a été créée avec son entité.
Nachon.
Même vous avez été créé avec votre entité.
Même toi.
Ouais, c'est ça.
Ken. Mais ouais. C'est-à-dire que tu as en face de toi, à l'intérieur de ton être, une force qui te pousse à faire l'inverse de toi. Donc tu dois te battre toute ta vie.
C'est intérieur, c'est pas il y a un autre homme.
Tout à fait, tout à fait. C'est une force intérieure. C'est pour ça que j'ai appelé ça le doute. Okay? Ça aussi, ça s'appelle, vous lui pouvez lui donner beaucoup de noms, ça s'appelle aussi le Yetzerara, c'est-à-dire la force de créativité dans le sens négatif. D'accord? C'est-à-dire qu'une image qui est développée, elle a un positif et elle a un négatif. D'accord? Donc tu peux regarder l'image des deux côtés. Tu peux la regarder dans le positif, tu peux la regarder dans le négatif. C'est la même image. Tu pourras reconnaître les mêmes personnages. Mais reste à savoir de quelle manière tu te sers pour voir la vie. Est-ce que tu te sers du négatif de cette photo, de ta vie, ou est-ce que tu te sers du positif de la photo de ta vie? Et chacun de nous a le choix de regarder sa vie dans le positif ou dans le négatif de la même pellicule. Ok? Alors, on va lire ensemble. J'ai écrit donc un petit texte pour expliquer tout ce que je viens de dire. Megillat Esther metaeret. Donc la Megillat Esther vient nous éclairer, nous relater et dfus hayachas shebein hakadosh baruch hu leolamenu kefi sheye bigmar hatikun. Traduction. La Megillat Esther vient nous enseigner la manière dont le Créateur du monde va s'adresser au monde à la fin des temps. Ça veut dire que Pourim, en réalité, est une fête du futur et non une fête du passé. Encore un secret. Ça veut dire quoi, fêter le futur? Eh bien, les sages nous indiquent que si tu comprends ce qui s'est passé à Pourim, immédiatement nous allons en parler, eh bien, tu vas comprendre en réalité comment Akadosh Baruch Hu, dans l'avenir, c'est-à-dire dans notre temps à nous, puisque nous, on est déjà dans l'avenir de cette fête-là, qui s'est déjà passée. Donc, nous sommes déjà dans l'avenir, nous sommes dans le futur. Donc, nous parlons de nous-mêmes. Donc, notre délivrance actuelle va ressembler étrangement à quoi? À celle de Pourri. Pourquoi? Tout à fait, je vais le ramener, c'est exactement dans le même sens que je vais. Tu as bien compris, et je suis content. C'est la même chose, Hanouka et Purim, c'est le même style. Agisha Elohit, alors donc, l'approche divine qui va être en ces temps-là, Beotam Zmanim, Hina Agisha Nistere, ça va être en réalité un lien caché. Dieu ne se dévoilera pas clairement dans l'histoire. Dieu se cachera dans les événements de l'histoire. Ce qu'on appelle dans un jeu de mots, historia. Donc, Hester, ya. Dieu se cache, Hester, dans l'histoire. Ou Meloubechet, donc nous, ce que nous allons voir en réalité d'Akadosh Baruch Hu dans le temps dans lequel nous vivons maintenant, c'est des vêtements. Qu'est-ce que c'est que les vêtements? Eh bien, ce sont tous les événements qui se passent. Tu allumes la radio, tu écoutes ce qu'on dit, tu entends les informations, et tu vois qu'un tel chef d'État a fait telle et telle chose, il y a eu un vote, il y a eu une crise économique dans un pays en Europe, il y a eu telle et telle chose à droite et à gauche. Et toi, tu te dis, bon, ce sont des événements naturels qui se passent dans le monde. Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus profond que cela. Ce sont que des vêtements, tout ce que je viens de dire maintenant, dans lesquels, dans ces vêtements-là, Akadosh Baruch Hu est en train de diriger son histoire. Alors, il va utiliser tous ces événements apparemment naturels, anodins, mais en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de diriger l'histoire à travers tout cela. Donc, Melubeshet Betal Chim Tivim, donc tout va être des processus naturels apparemment, chez la historia de l'histoire. Ou que Moshe Neemar be Midrash Teilim, Mizmor Kavbet, comme il est dit dans le Midrash Teilim, regardez bien ce que le Midrash nous dit, c'est un super chidouche. Esther sof kol hanissim. Esther va clôturer tous les miracles qu'il y avait jusqu'à maintenant depuis la création du monde. Autrement dit, depuis la création du monde jusqu'à Esther, il y a des miracles. Il y a un dévoilement de Dieu d'une manière visible. À partir de Pourim, Pourim clôture cette époque et on commence une nouvelle époque. Une époque dans laquelle Akadosh Baruch Hu ne se dévoile plus, il n'y a plus de miracles dévoilés. Tous les miracles se cachent dans la nature, s'habillent dans des événements naturels, à tel point que tu ne verras même pas Akadosh Baruch Hu si tu ne cherches pas à le voir. C'est exactement ce qui se passe dans la Megillat Esther. Vous ne trouverez pas du tout le nom de Dieu dans la Megillat Esther. Seulement des références et des allusions et des... Mais si tu le lis dans le premier niveau, Ameler, c'est Achashverosh. Un point à la ligne. Donc, vous êtes déjà avec un esprit d'étude, alors vous vous dites, oui, mais on va trouver, parce que tu as envie de trouver. Mais si je présente la Megillah telle qu'elle est, à quelqu'un qui n'a jamais étudié, il va me dire, bon, c'est une très belle histoire. Mais je ne vois pas Dieu là-dedans. C'est vrai, il s'est passé des événements, c'est tombé juste pile quand le roi rêvait cette nuit-là et les choses ont changé et on a amené un livre juste au bon moment. Mais ça, c'est ce qui se passe chez nous tous les jours. Donc, moralité, tu peux lire la Megillat Esther comme une histoire simple de suite d'événements et tu peux lire la Megillat Esther comme une grande manifestation divine qui est complètement cachée dans les événements naturels et il rentre en jeu à chaque fois d'une manière très discrète mais très efficace, très ponctuelle et très précise. Ken ? Il y a un deuxième temple après Esther. Oui. Oui. Non ? Non ? Deuxième Beth Amikdash. Reprends ton étude, tu verras qu'il manquait 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash. Faisant en sorte que le deuxième Beth Amikdash n'était pas du tout au niveau du premier, et donc toute la Shrina n'y était pas. Ok ? Moralité, elle y était. On ne la voyait pas. Il sert. Tu sais, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, la terre d'Israël et l'État d'Israël ne sert à rien. Ah, c'est ce que tu es en train de dire. Encore une fois, il peut y avoir des époques où le Beth Amikdash n'est pas. Mais on est dans une avancée beaucoup plus grande. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes encore plus haut au niveau de notre capacité que le moment où il y avait les deux temples. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'histoire ne fait qu'avancer. Donc on ne va jamais vers le passé, on va vers le futur. Et le futur en réalité, c'est grandir. Donc, Motsae Shabbat, quand le Shabbat sort, tu es plus bas que le Shabbat ou plus haut que le Shabbat ? Plus haut que le Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Shabbat vient de sortir et tu rentres dans un nouveau Shabbat qui va être encore plus grand. Ça veut dire que le judaïsme est optimiste, le judaïsme est une spirale qui ne va que vers le haut. On ne descend jamais. Ok ? Yeridat Adorot, c'est au niveau de l'image globale, mais au niveau du collectif, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui étudient la Torah qu'avant. Ça veut dire que lorsque tu parles d'un grand qui vivait à l'époque du Ramban, alors il y avait le Ramban. Mais tous les gens à côté n'étaient pas du tout au niveau. Aujourd'hui, la plupart des gens sont à un niveau qui est beaucoup plus grand que les gens qui étaient à cette époque-là. Alors il nous manque le grand comme le Ramban. En réalité, les gens, la population est beaucoup plus active. Il y a des livres, il y a une connaissance, elle est beaucoup plus grande au niveau du collectif Israël et mondial.
Comment on peut dire que ça va jour à jour quand on a des événements dans le Malkout,
etc. Mais tout simplement parce que ce sont des marches arrière de l'histoire, mais une marche arrière ne veut pas dire que tu es en train de revenir à la maison. De temps en temps, tu dois éviter un obstacle, donc tu changes de rue et tu évites un obstacle. Donc tu avances apparemment en reculant, mais tu ne recules pas. Donc moralité, c'est comme une vis. Un pas de vis, ça va toujours vers l'avant. Donc quand tu la pousses, même si tu ne fais pas d'effort, elle rentre. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que son pas est un pas qui est spirale, mais qui a aussi une direction. Donc notre histoire, elle est circulaire, mais en même temps, elle a une direction rectiligne. C'est pour ça qu'on ressemble à un pas de vis. Okay ? Par rapport aux nations du monde qui sont l'écrou. Okay. Comment on dit un écrou en hébreu? Oum. Ce sont les Nations Unies. Okay. Donc nous sommes les vis et eux sont l'écrou. Okay. Non, mais je rigole pas. En plus, l'image est réelle. Parce que nous jouons le rôle de vis alors que le monde joue le rôle d'écrou. C'est-à-dire que la vis doit donner en fait tout le sens à l'écrou. Donc, Esther... Sauf Kol Hanissim. Donc Esther est la fin de tous les miracles. Dehainu. Cela veut dire, chez Mikan Va'elach, qu'à partir de cette époque-là, donc Esther, donc je vais dire Esthérique, depuis cette époque Esthérique, Matril Idan Shel Esther, Hapeulot Ha'elohiyot Bema'alachim Ativim Shel Achaim. Commence une nouvelle époque, une nouvelle ère, qui va cacher les actions de Akadosh Baruch Hu dans les événements de la vie, dans les événements de la nature. Et donc ceux qui ne veulent pas voir Hachem ne le verront pas. Ceux qui ne comprennent pas qu'Hachem intervient dans l'histoire moderne que nous sommes en train de vivre ne verront rien. Ils vont d'ailleurs dire que la création de l'État d'Israël est un événement historique. Dieu ne fait pas partie de cette histoire. Par exemple, ce que nous refutons totalement, puisque nous disons au contraire qu'Akadosh Baruch Hu s'inscrit dans cette histoire nouvelle de la création de cet État d'Israël qui est le début de notre délivrance dernière, mais comme les miracles se sont arrêtés à Pourim, eh bien la manière d'Akadosh Baruch Hu d'agir, c'est une manière cachée. Donc il a agi d'une manière cachée, à travers des soldats, à travers des hommes d'État, à travers des guerres, à travers des manipulations, et à travers tout ce qu'on a fait pour arriver à ce que nous sommes. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige toute cette histoire, bien entendu. Chas v'shalom, de le sortir, de l'écarter de cette histoire moderne. C'est une hérésie totale. V'chen, darshu chazal, et c'est pour ça que les sages viennent nous enseigner, Bagmara, ce que tu as dit tout à l'heure, à juste titre, dans la Gemara de Megillah, Esther mina Torah minaim. Les sages se sont posé la question, où est-ce qu'on va trouver Esther dans la Torah? Esther n'est pas dans la Torah, vous comprenez bien. Esther vient après la Torah. La Torah c'est Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Dans tous ces cinq livres, Esther n'apparaît pas, puisque l'histoire de Pourim ne s'est même pas passée. Alors pourquoi les sages à tout prix veulent trouver Esther dans une histoire qui n'est pas encore la sienne? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Eh bien, les sages vont trouver Esther. Où est-ce qu'ils vont la trouver? Dans un verset, dans le livre de Dvarim, qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. Va'anochi, haster astir panai bayom hahu. Et moi, Akadosh Baruch Hu, je vais voiler deux fois. Je vais voiler mon voilement. C'est-à-dire, les gens ne verront même pas que je suis voilé. Vous comprenez? Je me cache, mais tu ne sais même pas que je me cache. Donc, tu ne me cherches même pas. Bayom Ahou en ce jour-là. Vous comprenez pourquoi les sages sont allés chercher un passage pareil de la Torah pour nous parler de Esther? Mais tout simplement pour renforcer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Esther représente en fait le monde où Akadosh Baruch Hu se cache. Et il se cache tellement bien qu'il continue à se cacher. Il y a des gens qui ne jouent même plus. À cache-cache, ils rentrent à la maison déjà. Et lui, il continue à se cacher. Okay? Donc c'est un jeu dangereux, malheureux. Ça vous est arrivé de jouer à cache-cache? Et vous êtes en train de vous cacher, tout le monde est déjà rentré à la maison, vous êtes encore derrière les arbustes pendant des heures. Okay? Et tu sors, tu te rends compte que toutes les mamans ont déjà appelé tous les petits-enfants, ils sont tous déjà rentrés chez eux, toi tu t'es super bien caché, personne t'a vu, mais tu es hors jeu déjà. Donc ici en réalité, regardez le verbe. Et qui se cache? Qui se cache? Akadosh Baruch Hu. Mais comment il se cache? Quel est le terme employé ici? Vanochi. Où est-ce que nous avons entendu Vanochi? Au Har Sinai. Ça veut dire Anochi, c'est la première des 10 paroles. Et donc, qui s'est caché en réalité? Qui se cache à partir de Pourim? Ce même Anochi. Autrement dit, le don de la Torah se cache. Le Anochi du Mont Sinaï se cache. Pourquoi faire? Pourquoi il se cache?
Pourquoi
on intervienne? Et donc, si j'interviens, je dois chercher le Anochi. Ce Anochi-là, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que ça veut dire Anochi en hébreu? Je suis. Alors pourquoi c'est pas marqué Ani?
C'est un dévoilement.
Qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Regardez comment ça s'écrit Anochi. Anochi. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Anachi en hébreu? Anachi. Horizontal ou vertical? Qu'est-ce que ça veut dire Anachi? Vertical ou horizontal? Vertical. Ça veut dire que au Mont Sinaï, le vertical, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, descend dans le monde dans lequel nous sommes. Donc je suis le vertical qui arrive vers vous. Mais la Gemara, elle nous dit un secret encore plus important que celui-ci. Elle nous ouvre toutes les quatre lettres et elle nous dit Aleph de Anochi, c'est Anna, c'est-à-dire moi. Nun de Anochi, c'est Nafshi, mon âme. Kaf de Anochi, c'est Ktivat, j'ai écrit. Et Yud de Anochi, c'est Yehivat, je l'ai donné. Je retraduis. Ana nafshi ktivat yehivat. Quand je vous ai donné la Torah, je me suis mis moi, Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur du texte, et je vous l'ai donné. Toute mon âme est à l'intérieur de cette Torah. Ça change tout. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas jeté un livre du ciel et il nous a dit, tiens, débrouillez-vous en bas. Il s'est donné complètement dans cette Torah qu'il nous a donnée. Ça veut dire que c'est une Torah qui nous fait vivre, c'est une Torah de vie. C'est pas des morceaux de papier ni des parchemins qui sont enfermés dans une boîte que tu ouvres 3 fois par semaine. Ne confondez pas le livre de la Torah avec la Torah. La Torah, c'est la vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis son âme, entre guillemets, dans ce Anochi. Et ce même Anochi, maintenant, il est caché. Va'anochi haster astir panai bayom ha'u. Ça veut dire que la situation n'est pas facile. Ça veut dire que le même Anochi se cache. Pourquoi? Comme tu as dit, pour qu'on agisse et qu'on cherche, et qu'on redemande, qu'on change la manière de recevoir la Torah. Donc je reviens au Mont Sinaï. Comment est-ce que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï? De gré ou de force?
De force.
Kafa aleim et tahar ke gigit. Il leur a mis la montagne sur la tête et ils ont été obligés d'accepter. Ça veut dire que la Torah du Mont Sinaï était une Torah qui nous a été imposée. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? On a accepté la Torah de gré. Comme il est écrit dans la Megillah d'Esther, Kiblou ve Keimou. Et les Chachamim nous disent Kimouma Shekvar Kiblou. Maintenant, ils sont maintenant en train de recevoir véritablement ce qu'on leur a déjà donné. En réalité, on leur a donné de force et maintenant ils commencent à comprendre et à vouloir. Ça change tout. Autrement dit, le deuxième don de la Torah, c'est quand? C'est Pourim. Le premier don de la Torah, c'est le Mont Sinaï, Shavuot. Quelle est la différence entre les deux? Le terme, il est complètement différent. Comment s'appelle, quand vous lisez dans votre livre de prière à Shavuot, qu'est-ce qu'on dit? Zman Matan Toratenu, c'est-à-dire le jour où la Torah nous a été donnée. Il n'y a pas marqué Zman Kabbalat Toratenu. Nous, on ne l'a pas reçu. Il nous l'a donné. C'est différent. Alors qu'à Pourim, qu'est-ce qu'on dit? Kimou ve Kiblou. C'est-à-dire que le terme a changé maintenant. Je ne suis pas seulement celui qui subit. Je reçois. Recevoir, ça veut dire je me fais ustensile pour recevoir la Torah qui m'a déjà été donnée il y a très longtemps. Et vous connaissez toujours cet oncle radin. Tout le monde donne des belles montres et des super appareils au bar mitzvah. Et donc il est en train d'ouvrir tous les machins. iPad, iPhone, iPod, IP, iPod. Et l'oncle, il a donné un livre de Torah. Le bar mitzvah, à cet âge-là, il n'en a rien à faire de ce livre. Et il le met dans son armoire. Même pas il l'ouvre. C'est qui cet oncle radin? Et cet enfant grandit, il n'a plus 13 ans, il a déjà 22 ans. Il commence à avoir des soucis. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je ne comprends plus rien. Où est-ce que je vais trouver une femme? Comment je vais faire dans ma vie? Parnassa, machin et tout. Israël, tout ce que vous avez dans la tête. Et où il va? Il va dans sa bibliothèque. Et il prend ce livre. Et dans ce livre, comme par hasard, il y a plein de réponses à toutes ces questions. Et en plus de ça, il y a des billets d'argent que l'oncle a laissé dedans, mais il n'a jamais ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il vient de recevoir ce que l'oncle a donné il y a 10 ans.
Mais il vient de l'accepter.
Il vient de le recevoir, c'est la même chose. Ça veut dire, lui, l'oncle a donné il y a 9 ans, et 9 ans après seulement, ce bar mitzvah, quand il a 22 ans, il vient seulement de recevoir. Il s'est passé 9 ans entre le don et la réception. Vous comprenez? C'est la même chose quand vous étudiez la Torah. Le Rav peut vous donner un enseignement. Ça rentre ou ça rentre pas. Et un jour dans votre vie, vous dites, c'est ça que le Rav m'avait dit il y a 10 ans quand j'étais au Machon Meir. Maintenant, je comprends. Ça veut dire que le Rav a parlé il y a 10 ans et l'effet de ce qu'il a dit se voit seulement 10 ans après. Ok.
Mais comment expliquer alors que Mordechai et Esther, ils appliquaient la Torah? Reçu.
D'où tu sais qu'ils appliquaient la Torah? Ça c'est parce que les rabbanim nous le disent. Mais est-ce que la Megillah, encore une fois, je reviens au texte simple. Tu sais si Mordechai est religieux ou pas? On ne sait pas. Ishiudi, c'est un juif. Un juif. Il n'y a pas marqué tzadik, machin, rien. Ishiudi, un homme juif. Ishiudi. Shmo Mordechai, Ben Yair, Ben Kish. Ishiemini, on sait qu'il vient de la tribu de Binyamin. C'est tout. Et Yehudi, de la tribu de Yehuda. Ça veut dire qu'il a moitié-moitié, Yehuda et Binyamin. C'est tout. D'accord. Mais on ne sait pas. Après, quand tu vas ouvrir la Gemara, tu vas chercher, et effectivement, il fait partie de Anshe HaKnesset HaGdola. Et Mordechai, et Esther, pareil. En Esther Magedet Moladeta. C'est-à-dire, Esther, on ne sait même pas si elle est juive, on ne sait même pas, puisque Achashverosh l'apprend et ne sait même pas qu'elle est juive. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a ni Kisouiroch, ni rien? Comment elle fait? Comment? Justement, comment elle fait? C'est sa femme.
Elle lui cachait.
Donc, tu t'es marié avec une femme, toute sa vie, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Le vendredi soir, elle mettait le Kisouiroch, elle allumait les lumières comme les maranes dans un placard, les veilleuses de Shabbat, après se sauver, elle disait à ses servantes, ne dites rien au roi. Possible, je ne sais pas. Je vous pose des questions. Okay? La Megillah, elle ne dit rien.
Elle
okay? C'est
le Midrash qui dit non.
C'est-à-dire, donc encore une fois, il faut rentrer dans l'étude. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette période-là, ce que je veux arriver à vous faire comprendre, c'est que, à partir de Pourim, la manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu va prendre une nouvelle forme, une forme cachée. Dis-lui que je ne suis pas là. Veine. Tiens, mets-le là. Nital leasik mitzurat agisha hanisteret. Non, qu'est-ce que nous devons apprendre de ce qu'on vient de dire? Chez la Kadosh Baruch Hu, shtei maskanot shonot lachalutim. On peut comprendre deux choses complètement opposées. Ha'achat, première des choses. Lomar, she'aester novea mikas Elohi al Israël. Kadosh Baruch Hu est très en colère contre Am Israël, à cause de leurs actions, et effectivement, il y a aussi de quoi être en colère, puisque la Gemara nous dit Shenehenu Misaudato shel oto racha. C'est-à-dire que les enfants d'Israël de cette époque se sont réjouis du repas, du festin que le roi Achashverosh leur a préparé. Et alors, on a le droit ou on n'a pas le droit? Si c'est Kacher Beddin de Shushan. On a le droit. Alors pourquoi on le reproche? Alors qu'est-ce qui se passe? On a un respect par rapport à quoi? Ça veut dire quoi? Et s'ils n'avaient pas mangé dans les ustensiles du Beth Amikdash? Plus encore. Ça va dans la direction que tu dis. Va plus loin dans ce que tu dis. Agrandis. Ils se soumettent pas seulement au roi, ils se soumettent à quoi? À l'exil dans lequel ils sont. C'est-à-dire, ils acceptent complètement l'état de leur exil et continuent à l'absorber, à le manger. Ils mangent de l'exil toute la journée et ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que la viande est cachère, il y a un tampon du rabbinat. Vous comprenez le problème? Ça veut dire quand tu manges, quand tu absorbes de l'exil, en fait, et tu prends plaisir à absorber cet exil, parce que manger c'est absorber, alors là ça va plus, parce que tu es en train d'oublier ton identité. Après on dit que c'est bon la galette, en réalité on parlait de la galoute. Ça s'appelle pas la galette, c'est la matzah. Donc si tu dis c'est bon la galette, tiens un problème, fais attention. Donc, en réalité, la deuxième façon de voir cette chose-là, c'est celle que je préfère, hi chez Adraba, au contraire. Bisrut bagroutam chez l'Israël, justement parce que Israël a grandi. Israël a mûri dans leur état, c'est-à-dire ils sont prêts maintenant après 70 ans, rappelons-nous le contexte. Nous venons de terminer 70 ans d'exil de Babylone. Plus d'Égypte, Babylone. Et après les 70 ans d'exil de Babylone, le prophète a dit que l'exil durera que 70 ans. Donc il était temps de partir, de rentrer en Israël. Alors qu'est-ce qu'ils font encore là-bas? Et les sages nous disent que Haman vient et dit à Achashverosh une phrase clé. Yeshno am echad, mefuzar ou meforat ben haamin. Traduction littérale pour l'instant. Il y a un peuple, il est un, am echad, mais il est éparpillé. Deuxième explication, celle de nos sages dans la Gemara. Yeshno. Ne lis pas Yeshno, mais Yashmi. Ils se sont endormis tous. Yashnu Amechad, le peuple s'est endormi. Il ne sait même plus ce qu'il doit faire, il est en train de dormir, il est dans un grand sommeil. Dans la torpeur de l'exil. Ok?
Ça veut dire que si le peuple qui s'est réveillé pour revenir en Israël, il se
revient
en Israël. C'est pas au moment où il a décidé pour revenir
que
ça va se passer.
Ben voilà. Quand il revient, mais il faut que je revienne. C'est-à-dire si lui décide et moi je fais pas, qu'est-ce qui se passe?
Ça
se fait pas.
Logiquement, quand ça se décide, Dieu va te décider. Quand Père il a commencé à parler du
processus. Ben, la preuve qu'il y a la majorité du peuple d'Israël qui est encore en dehors d'Israël. Ils n'ont pas entendu ce que tu vois. Toi, tu as entendu?
Si, entendu.
Alors? Oui, ils sont pro, ils ne sont pas là. Ça fait beaucoup de temps quand même, hein, pour un voyage de 4 heures, de 5 heures. 60 et quelques années. Ça commence à bien faire, non?
Ouais, mais c'est-à-dire que... Donc, RC, il a commencé à parler de tout ça, pour tout ce qui est le retour en Israël, tout ça. C'est un cadeau de propos qui lui a permis de se réveiller dans le...
Encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que les gens entendent ce que RC a entendu, est-ce que toi, tu as entendu? La preuve, c'est que pas tout le monde entend. Je ne suis pas en train de dire encore qui est qui, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais c'est une réalité. J'ai donné des cours la semaine dernière à Lyon et ailleurs. Okay. Alors justement, okay. Le lion d'or. Non, Baruch Hashem, le peuple d'Israël est en train de se réveiller.
Les sages,
la plupart des sages sont restés en exil. Pour répondre à ta question, malheureusement, je ne voulais pas en parler, mais tu m'as poussé. C'est-à-dire il n'y a que les paumés. Non seulement ça, mais ils ont été tous contre Mordechai. Mordechai était seul à se battre contre tout cet empire. C'est-à-dire, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu vas nous rentrer dans la panique, on est tranquille. Arrête. Qu'est-ce que tu veux nous embêter? On a une cache-route tranquille, on a une synagogue, on a une communauté. Arrête de nous en...
Il leur a dit, je
n'ai pas la okay. Donc Mordechai, c'est un trouble-fête. Hein, il a dit arrêtez d'aller à droite, à gauche. Hein, arrêtez de donner les noms de tous les restaurants que vous connaissiez là-bas. Donc, ce sont nos frères et nous devons prier pour leur retour, Bevadai, avec beaucoup d'amour. Bisrut Bagroutam chez l'Israël. Donc au contraire, parce que Israël est dans un état de grandeur. Et qu'ils arrivent maintenant, normalement ils sont censés être capables de se débrouiller tout seuls. Itmodedima alacha historia, avec les épreuves de la vie. Peut-être pas au moment de Pourim, mais à partir de Pourim, mais jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous m'avez perdu en route là, je sens. Ça veut dire tout simplement que si Dieu s'est caché à partir de Pourim dans son histoire et qu'il n'apparaît pas clairement, c'est qu'il considère que nous sommes... C'est qu'il considère que nous sommes mûrs. Ok? Je suis papa de petits-enfants. C'est un exemple. Ils sont déjà grands. Ok? Lorsque les enfants font des bêtises et qu'ils se débrouillent tout seuls, j'interviens? Non. Mais si je vois que ça tourne mal... J'interviens. Bien, Kadosh Baruch Hu fait la même chose.
On a toujours besoin de ses parents pour nous aider et tout.
C'est vrai?
Non, c'est vrai.
Tu n'es pas marié encore?
Non.
Les attachés. Il y a marqué Alken Ya'azov Ish et Aviv et Imov et Davak Beishto. C'est seulement lorsque tu quitteras cette pensée que tu pourras te marier. Si je suis venu que pour ça, Dayenu. Ok? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque papa, maman n'interviennent pas, c'est que j'arrive à me débrouiller. C'est que je suis mature. Si à chaque fois que je fais un truc, viens me chercher au Machon. Je suis au Machon Meir. J'ai un copain, il m'a fait quelque chose la nuit. Il y a un problème. Eh bien, c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu intervient dans l'histoire humaine à partir de cette époque de Pourim à une seule condition, c'est que nous sommes plus capables de nous débrouiller tout seuls. Donc, moralité, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu intervient miraculeusement, ça veut dire que nous sommes des enfants et pas mûrs. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide à partir de l'histoire de Esther de cacher son apparition dans l'histoire, ça veut dire quoi? Qu'il juge que nous sommes adulte, mûr. Donc, au contraire, il se cache. Vous comprenez comment il faut voir les choses? Donc, moralité. Toutes les fêtes qui vont venir après Pourim, toutes les fêtes, ça fait déjà pas mal de temps, hein? Toutes les fêtes qui vont venir après l'histoire de Pourim vont être des fêtes dans lesquelles Akadosh Baruch Hu sera caché dans l'histoire, il n'apparaîtra pas clairement. Quelles sont les fêtes qui sont venues après Pourim? Hanouka et Yom HaAtzmaut. Yom Yerushalayim, en fait. Okay. Est-ce que dans ces trois que je viens de mentionner, est-ce que Dieu apparaît clairement dans l'histoire? Non. Il se cache dans l'histoire. À Hanouka, c'est une victoire militaire. Même la fiole, après, c'est une fiole qui ont partagé en 8 jours. Tu peux toujours tout... Tu vois rien. Tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Bien sûr que nous, en tant qu'étudiants de la Torah, nous savons qu'il est là. Au contraire. Eh bien, Yom Yerushalayim, Yom HaAtzmaut, pareil. Tu peux dire c'est les militaires, c'est machin, c'est Moshe Dayan, c'est ce que tu veux. C'est le Palmar, c'est la Haganah, c'est ce que tu veux. Et si tu ne sais pas voir ça, ben tu n'as rien compris à Pourim. Donc Pourim, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qu'il faut comprendre à Pourim? C'est un déclenchement. Qui doit d'abord, avant que j'arrive à Pourim, enlever le doute. Et quel est le doute donc? Kakadosh Baruch Hu n'est pas dans cette histoire. C'est ça le véritable doute. Est-ce que Dieu participe à mon histoire aujourd'hui? Est-ce que Dieu est avec nous aujourd'hui? Vous entendez des gens qui posent cette question? Peut-être que Dieu est avec les autres. Peut-être que Dieu n'est plus avec nous. Ce genre de question commence à te rentrer dans le piège. C'est parce que je dis, peut-être que Dieu n'est pas avec moi. Rafou yedehem. Quand est-ce que Amalek est venu? Dans Refidim. Refidim, ça veut dire on a baissé les bras. En hébreu, on dit on a levé les bras. En français, on dit on a baissé les bras. C'est la même chose, mais à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Réfléchissez. Okay. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un état de dépression. C'est toujours avant de rentrer à Sion, donc c'est pré-Sion. C'est une dépression. Après, il y a Sion. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, avant d'arriver à Sion, on est à dépression. Ça marche comme ça. C'est ça Amalek. Qui vient nous manger en route pour nous empêcher de devenir peuple. Donc Amalek. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il vient lécher le sang du peuple, de la nation. Pas des individus. Ça n'intéresse pas les individus. Au contraire, ils endorment. Restez tranquille, faites votre petite cache-route. La notion de peuple, ça tu oublies. Tu vas devenir un grand religieux, mais tu vas oublier la notion du peuple. Tu ne vas plus savoir que tu es une nation qui doit vivre sur sa terre, Chas v'Shalom. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Et ça, c'est l'histoire de Pourim. Donc avant de rentrer à Pourim, faites un switch dans la tête. Rappelez-vous l'histoire de la vis et de l'écrou. Et nous devons d'abord annuler le Amalek qui se trouve sur notre chemin, c'est-à-dire celui qui nous met les doutes, à savoir est-ce que Dieu est avec moi dans ce processus, est-ce que véritablement je dois faire ce pas, ou est-ce que je dois rester encore là-bas, je suis tranquille moi là-bas, pourquoi je viendrai ici? Ici c'est difficile. Posez-vous les questions. Et quand vous vous posez les questions et que vous allez avoir la certitude de vos actes, eh bien vous allez fêter Pourim, d'un autre niveau, que jamais vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc je vous souhaite que le Pourim que vous allez fêter la semaine prochaine soit à un niveau que vous n'avez jamais connu. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer à Pourim avec une prise de conscience du combat que je dois mener pour annuler tout le Amalek qui est en moi. Or le Amalek c'est le Safek. Et nous disent les Chachamim, « En simcha ke hatarat hasfekot. » Il n'y a plus grande joie que lorsqu'on enlève les doutes de notre être. Si je veux être un homme heureux, un homme joyeux, je dois enlever les doutes de moi. Je me nettoie de tous mes doutes. Donc je deviens certain de ce que je fais. Je réalise véritablement mon être. Okay.
Le combat dure une vie alors.
C'est
le combat dure une vie entière.
Un petit peu plus, quelques vies. Okay. Quelques gilgoulim, tu reviens sans arrêt. Chaque année, à la même fête, nous avons le même combat. Sous une autre forme, parce que tu as grandi depuis l'année dernière, puisque tu es une vis. Donc tu as avancé. Donc en réalité, achète-toi une visseuse électrique pour avancer plus vite dans ton histoire. Et combat le Amalek qui se trouve aujourd'hui autour de toi.
La, la, là, c'est notre premier tourisme en Israël, etc. Donc on a déjà beaucoup avancé par rapport à
Baruch Hashem, effectivement. Tu es en train de corriger l'histoire de Pourim tout entière, puisque l'histoire de Pourim s'est réalisée, s'est faite en dehors de la terre d'Israël. Et toi, maintenant, tu es en train de la fêter, Be'ezrat Hashem, sur la terre d'Israël. Donc tu vas voir. Ah oui, là-bas, c'est la fête. Ouais.
Il y a des groupes de rabbins qui vont le faire sur la boucle avant de faire l'ISR.
Ouais. Bien. Magnifique. Ok, Toda Rabba.